C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, eh bien, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon cher Adjan Chélil. Comment vas-tu, Adjan ?
Ça va très bien, je passe un très bon week-end et toi, Thibaut ?
Ben oui, mais je me faisais la remarque, il caille de ouf.
Hein, ah, ça y est, il y a l'hiver qui arrive à Lyon, c'est comme ça. Nous, on fait été jusqu'à fin novembre et puis là, bam, moins 2 degrés, la brume de partout.
J'ai même vu des gens qui grattaient leur bagnole ce matin et tout.
Ah, non, ça m'étonne pas, moins 2 je crois en sortant de chez moi.
Voilà, ouais. Ça caille. Bon, c'était le petit point météo oui, du voilà, Super Daily. On sait pas comment c'est chez vous, on imagine ça caille aussi.
N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, venez nous dire quel degré il fait chez vous aussi, ça fait plaisir, on partagera nos froids.
Bon, quoi de neuf sur la planète sociale ? Qu'est-ce que tu as vu de beau Adjan.
Eh ben allez, je démarre. Moi, je voulais vous parler de Youbo, le réseau social français. J'en avais déjà parlé dans le Super Daily, dans l'épisode 320. C'est un réseau social français qui est plutôt destiné aux ados et aux plus jeunes et qui a de très grandes ambitions. En janvier, j'en avais parlé parce qu'ils avaient levé 11,2 millions d'euros avec des investisseurs comme Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, donc des mecs qui pèsent un tout petit peu dans le game du social media. Le fonctionnement de la plateforme, elle est très simple. Dans le fonctionnement, c'est une sorte de Tinder. Quand des utilisateurs se matchent, ils peuvent ensuite discuter en privé ou en vidéo, parfois même à plusieurs. La différence, c'est que Youbo ne veut pas créer des couples, mais plutôt des rencontres, des nouvelles amitiés, jouer à des jeux, avoir des débats en vidéo, etc., etc. Son business model, il n'est pas basé comme les autres sur de la publicité, mais plutôt sur le fait que les utilisateurs vont payer pour débloquer certaines fonctionnalités, certaines choses à l'intérieur ou même s'abonner à l'application. Et là, en fait, je vous en reparle aujourd'hui, tout simplement parce que Youbo vient encore de faire une levée de fonds et cette fois-ci, c'est 40 millions d'euros qu'ils ont levé pour pouvoir se développer en Asie. L'application aujourd'hui, elle compte 40 millions d'utilisateurs. Donc, c'est déjà une bonne petite base. Et elle a surtout bien explosé et bien augmenté pendant le premier confinement. Elle existe depuis 2015, l'application. Mais rien que pendant le premier confinement, elle a pris 8,5 millions de nouveaux membres à ce moment-là qui se sont inscrits sur la plateforme. Donc, on voit que c'est vraiment une plateforme qui grandit, qui est dans une belle ascension sur cette année 2020. Et voilà, j'ai envie d'en parler parce que je me dis à surveiller de près quand même, de voir. En plus, c'est rare d'avoir des réseaux sociaux français populaires. Donc à voir jusqu'où va Youbo.
Très bien, jusqu'où va Youbo, on verra, faire à suivre effectivement. Et jusqu'où va aller Twitter ? Tiens, c'est la question que moi je me pose ce matin. Twitter qui, on l'a annoncé semaine dernière, on a même fait un épisode dédié à Fleets, tu sais, ce nouveau format
yes.
de stories à la sauce Twitter. Eh bien, Twitter se retrouve obligé de ralentir le déploiement de Fleets, notamment en raison de problèmes de performance et de stabilité. Alors, si comme nous, vous avez le plaisir de disposer des nouvelles stories de Twitter, hein, les fameuses tweets, eh ben, je ne doute pas que vous avez passé la semaine dernière à faire mumuse et à tester ce tout nouveau format de tweet éphémère, hein, parce que finalement c'est ça dont il s'agit quasiment, de tweet éphémère. Si vous n'avez pas par contre accès encore à Fleets, vous allez devoir patienter, pas de bol, parce qu'effectivement Twitter a décidé de ralentir le déploiement qu'il avait annoncé worldwide en disant c'est ouvert à tout le monde. Et ben finalement ils font machine arrière en raison de problèmes techniques, franchement. Et c'est vrai que même quand tu as Fleets aujourd'hui, tu les ressens, les problèmes techniques. Il y a un lag de dingue. C'est lent. J'ai fait des tests, de nombreux tests. J'ai cru que mon application marchait pas. Je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé. J'ai essayé sous toutes les formes. C'est très, très long de poster des Fleets aujourd'hui. Pourquoi ? Eh ben parce que techniquement, Twitter s'est fait complètement dépasser hein, par l'afflux d'utilisateurs. Hein, alléché à l'idée de tester Fleets. Alléché aussi à l'idée bien de republier leur message, d'élargir sans doute leur portée. Bref, ils n'avaient pas prévu que ça allait faire exploser leur serveur et du coup, il y a des lags de dingue. Donc, ils ont décidé de mettre un stand-by là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez constaté. Adjan, est-ce que tu as fait des tests, toi, de ton côté ?
Je n'ai pas encore trop testé Fleets. J'en ai vu passer 2-3 comme ça, mais je n'ai pas moi-même, en tout cas, fait un Fleets.
Non, mais attends, 30 secondes pour poster un fleet.
C'est un peu long.
Ça mouline. Donc, c'est sûr qu'à côté, Instagram a une longueur.
En 98, j'aurais dit cool, rapide et tout. Là, aujourd'hui, en 2020, un poil long quand même.
Donc, très compliqué. Donc, tweet, met en stand-by, voilà, le temps qu'ils règlent tout ça, qu'ils achètent 2-3 RAM de serveurs, 2-3 racks de serveurs pour pouvoir lancer réellement fleet.
Moi, j'allais vous parler de Twitter aussi. Twitter qui a embauché un célèbre hacker comme responsable de la sécurité. Ça fait un peu plus d'un an que Twitter est confronté à quand même pas mal de problèmes de sécurité. Fin 2019, il y avait 2 employés de Twitter qui avaient été accusés par le gouvernement américain d'espionner des opposants d'Arabie Saoudite. En juillet, tu dois t'en souvenir Thibaut et vous aussi qui nous écoutez, il y avait eu un groupe de hackers qui avait réussi à prendre le contrôle d'un bon nombre de comptes de grosses personnalités américaines comme Joe Biden, Barack Obama, Apple ou encore Elon Musk.
Tout à fait.
Qui avaient fait des arnaques au Bitcoin. C'était pas la première fois qu'on en voyait en plus sur la plateforme. Donc Twitter a décidé de réagir et a pris les choses en main. La plateforme a recruté le 16 novembre dernier une des figures référentes de l'histoire de la cybersécurité, puisque c'est un célèbre hacker connu sous le nom de Mudge qui s'appelle Peter Zatko. Attention, il a un CV qui fait peur. Il a supervisé la sécurité de l'entreprise Stripe, qui est une plateforme de paiement électronique. Et de 2010 à 2013, il a travaillé pour l'agence de projets de recherche avancée de défense au Pentagone. Donc, le mec doit s'y connaître un tout petit peu en cybersécurité. Il a intégré ensuite en 2013 Google et avant aujourd'hui d'arriver chez Twitter. Il est surtout connu parce que dans la fin des années 90, il avait notamment piraté le système d'exploitation Windows en détente avec un petit groupe de hackers. Donc, ça fait un petit moment qu'il traîne hein, quand même dans ce milieu des hackers et de la cybersécurité. Et en fait, il explique lui-même que jusqu'à maintenant, Twitter misait tout sur son algorithme pour éviter les problèmes de sécurité et détecter quand il y avait des problèmes de sécurité et que lui, sa vision était un petit peu différente et qu'il pensait qu'il fallait aussi installer des hommes derrière tout ça pour mieux contrôler les informations personnelles qui pouvaient sortir ou les prises de possession de comptes comme il s'est passé il y a quelques mois.
Allez, je bascule du côté de YouTube. YouTube qui va proposer des pubs qui ne rémunèrent pas les créateurs. Alors, c'est vraiment le bad buzz de fou hein, qui fait gronder là, la scène des créateurs YouTube. Rappelons juste un truc. Le business model de YouTube, il est construit sur un fair deal, un deal juste qui est le suivant. Moi, YouTube, je propose une solution technologique qui est ma plateforme pour que vous puissiez, vous, créateurs de contenu, proposer du contenu au plus grand nombre. Ce service, il est gratuit. Et pour gagner ma vie, moi, YouTube, en tant que plateforme, je vous propose d'intégrer de façon volontaire et individuelle des publicités au cœur même de vos créations vidéo. Et puis ensemble, on partage les revenus publicitaires. Ça, c'est le deal historique de YouTube qui a fait bien sa richesse, la richesse de Google et puis la richesse d'un certain nombre de YouTubeurs. Hein. Oui, mais ça, c'était avant parce que cette semaine, YouTube a dévoilé une nouveauté qui fait grincer des dents un certain nombre de créateurs, notamment de petits créateurs. Désormais, YouTube ne partagera plus avec les créateurs jugés pas assez importants pour faire partie de son programme partenaire. En gros, ils ont dit, bah, nous, on mettra des pubs, y compris sur les petits comptes, sur les petites vidéos. Pourquoi? Bah, parce que ils ont énormément de longues traînes sur YouTube. Hein. On en parle souvent. YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche vidéo. Et au milieu, il y a des millions et des millions de vidéos qui ne sont pas toujours monétisées. Et pourtant, eh bah, si tu prends une petite vue par-ci, une petite vue par-là, eh bah, ça fait vite beaucoup, beaucoup d'affichage et d'inventaire publicitaire. Et du coup, YouTube dit, bah, si tu fais pas partie de mon programme partenaire, on partagera pas les sous.
Je mettrai quand même ma pub, mais tu n'auras rien.
Mais tu n'auras zéro. Et alors, pour faire partie de ce programme partenaire, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Il faut avoir 1000 abonnés minimum. Il faut avoir passé le cap des 1000 abonnés. Et c'est peut-être là où c'est le plus compliqué. Cumuler plus de 4000 heures de visionnage valide sur des vidéos publiques au cours des 12 derniers mois. En gros, il faut avoir 1000 abonnés et surtout beaucoup de vues parce que mine de rien, 4000 heures de visionnage sur ces contenus vidéo YouTube, c'est beaucoup. Donc si je monte une chaîne avec 3-4 vidéos, je n'aurai jamais ces 4000 vues, ces 4000 heures de vidéos vues.
À moins que tu sois McFly et Carlito et que tu remontes une deuxième chaîne.
Et voilà, à moins que je monte la troisième chaîne de McFly et Carlito, effectivement. Et du coup, bah forcément, certains voient dans cette nouveauté un truc un peu malsain, un peu mesquin même à l'attention des petits créateurs. Le sujet sans fin hein. C'est vrai que c'est il fait pas bon être un petit créateur sur YouTube. On a parfois l'impression effectivement qu'on a cette plateforme qui et encore plus maintenant qui va se sucrer sur le dos des petits. Affaire à suivre,
pas joli
en tout cas, ça gronde.
Pour finir, moi, je voulais parler de Facebook qui est poursuivi à l'échelle fédérale aux États-Unis pour le rachat d'Instagram et de WhatsApp. Figure-toi, ça fait longtemps que cette petite musique traîne dans les médias américains et là, ça devrait enfin aboutir. Facebook avait racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014 et depuis, on savait que la justice américaine s'intéressait de près à ces rachats parce que le problème, c'est que ces rachats, c'était un peu des rachats pour tuer la concurrence et pour installer un monopole, ce qui est interdit aux États-Unis. Et du coup, la justice est en train d'étudier si oui ou non il y a eu une malversation dans ces rachats-là. Alors j'aime bien la défense de Marquito sur le sujet quand il parle d'Instagram, notamment il dit à l'époque, je ne pense pas que nous ou quiconque considérions Instagram comme un concurrent, comme une grande plateforme sociale polyvalente. En fait, à l'époque, les gens se moquaient de notre acquisition parce qu'ils pensaient que nous dépensions beaucoup plus que nous aurions dû pour quelque chose qui était principalement une application de partage de photos et d'appareils photo.
En l'occurrence, c'est assez vrai quand Facebook avait racheté Instagram. Je pour une somme hallucinante, je sais plus.
Un milliard. Un milliard, ouais, je sais plus.
Tout le monde a sauté au plafond, ils sont devenus dingues, ça vaut pas ça.
Et en fait, si, ça les valait et Marquito avait bien senti le coup venir. Et en tout cas, c'est sûr que comme défense, c'est beaucoup plus simple de dire « Ah mais non, mais c'était absolument pas un concurrent au moment où on l'a racheté. » C'est plus facile à défendre. Après, sur WhatsApp, c'est un petit peu plus compliqué puisque là, Facebook avait promis au moment du rachat de WhatsApp que WhatsApp resterait une plateforme complètement indépendante. Et notamment, il y avait une grosse question sur les partages de données personnelles entre les plateformes. En restant une plateforme indépendante, normalement les informations personnelles de WhatsApp ne devaient pas être partagées avec le reste des plateformes du groupe Facebook. Sauf que depuis, bien sûr, toutes les données personnelles de WhatsApp sont partagées avec le reste du groupe Facebook et les autres plateformes. Donc Facebook n'a pas tenu cette promesse-là et là, ça sera plus compliqué à défendre devant la justice américaine. Qui va du coup étudier ça de près, regarder si Facebook a commis des actes illégaux pour asseoir cette domination et son quasi-monopole. Et Facebook, en 2020, va être le deuxième membre des GAFA à se faire attaquer par la justice américaine sur ce sujet-là, puisqu'il y a Google qui est déjà attaqué pour les mêmes raisons, il y a une enquête en cours, en tout cas, sur Google pour les mêmes raisons. Et Facebook va donc être le deuxième géant américain à se faire attaquer.
Avec un risque majeur, c'est celui du démantèlement du groupe Facebook. Alors évidemment, on en est encore très loin
de ça,
mais c'est le risque qui pèse sur les épaules comme à une époque Microsoft s'était retrouvé exactement dans la même situation et c'est peut-être ce risque de démantèlement qui pousse Zuckerberg et ses équipes à enfoncer encore davantage le clou sur l'interconnexion entre les différentes plateformes Instagram, WhatsApp, Facebook pour être sûr que ce soit plus séparable.
Aller
tellement loin que ça soit très compliqué de les séparer.
C'est ça l'Amérique, c'est tout l'art d'arriver à monter des monopoles sans que ça en ait l'air.
Allez, moi je vais continuer avec YouTube. YouTube qui a décidé de s'attaquer à Spotify. Voilà, je trouve cette news intéressante. Pourquoi ? Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est un secret de polichinelle un petit peu. Sagement conservé par les équipes de YouTube et aussi les agences médias, il y a une part non négligeable de l'audience de YouTube qui utilise la plateforme pour écouter du son, pour écouter des playlists musicales. Et quand je dis c'est un secret de polichinelle, évidemment, ça n'arrange personne, ça n'arrange pas YouTube de le dire et ça n'arrange pas les agences médias. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes annonceur, vous achetez des publicités pour qu'elles soient vues et pas exclusivement pour qu'elles soient entendues. Et il se trouve, ceci étant, qu'il y a une part substantielle des audiences de YouTube qui utilise exclusivement le parti audio de YouTube, qui utilise YouTube comme sur Spotify en gros. Et de fait, rares sont les pubs YouTube à être adaptées à ce mode de consommation. Bien souvent, elles sont pensées pour leur qualité visuelle et elles marchent beaucoup moins bien quand elles sont en audio exclusivement. Et du coup, il y a évidemment une opportunité à développer un format audio, publicité audio. Et c'est ce que développe YouTube. Parce que ce qu'ils ont vu YouTube, c'est qu'ils ont vu Spotify monter effectivement prendre le lead sur le contenu audio, devenir un peu le YouTube de l'audio avec énormément de contenu playlist audio de base d'albums et puis aussi des podcasts, des contenus podcasts. Tout ça aujourd'hui, Spotify se rémunère avec des publicités qui sont réellement des publicités audio et en tant qu'annonceur, là au moins on sait ce qu'on achète. Donc YouTube a décidé de lancer une offre à l'attention des annonceurs qui est exclusivement audio. Alors t'auras juste un petit visuel type qui passera à ce moment-là. Tu n'auras pas de vidéo, tu auras juste de l'audio. Évidemment, ce qui se passe, c'est que YouTube a bien vu les nombreuses playlists et les nombreux contenus podcasts qui sont hébergés sur sa plateforme et qui font énormément de vues. Les annonceurs les ont vus aussi et on commence à avoir envie, bah, pourquoi pas, d'annoncer au cœur d'un podcast. Ça commence à être intéressant, à la condition pour ça de concevoir, d'avoir un format publicitaire qui soit parfaitement adapté à la consommation audio.
Et je vois aussi une manière pour YouTube de préparer, ils ont quand même YouTube Music hein, qui pousse depuis un petit moment déjà. Hein. Vous l'avez tous vu, quand vous connectez à YouTube depuis un an et demi, on vous dit abonnez-vous, prenez un mois gratuit, prenez un mois gratuit, prenez un mois gratuit.
Le nombre de fois j'ai cliqué sur ignorer l'essai, ignorer l'essai.
Ouais, ah, ça rend fou. Mais du coup, avec cette plateforme-là de YouTube Music, pareil, je pense qu'ils ont aussi là tout un intérêt parce qu'ils ont un catalogue à proposer où ils vont pouvoir passer de la pub audio. Parce qu'après, sur la plateforme vidéo, j'ai du mal à voir comment ils vont savoir exactement quand est-ce que c'est des vidéos qui sont vraiment visionnées ou quand est-ce que c'est des vidéos qui sont juste écoutées.
Eh bien, quand j'écoute, peut-être quand il s'agit d'un contenu podcast, tu vois, quand il s'agit d'un contenu playlist avec des clips, là, ils vont prendre le parti de dire, là, j'ai un inventaire spécialement dédié et l'audio s'y prête. En tout cas, voilà, intéressant pour les annonceurs de se dire, oui, je peux du coup travailler un format exclusivement audio, pourquoi pas.
T'as autre chose, Thibaut?
Non, c'est bon pour ce matin.
Eh bah écoute, moi aussi j'ai fait le tour. Si vous avez vu passer d'autres news, vous, qu'on aurait raté pendant le week-end ou la semaine dernière, n'hésitez pas, venez nous en parler sur les réseaux sociaux @supernatif, sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok ou Pinterest.
Oui, et puis on voulait vous remercier aussi, vous qui avez été nombreux à kiffer hein, les épisodes qu'on a fait, notamment l'épisode sur les guides Insta. Énormément d'échanges avec vous sur les plateformes en coulisses, là, sur comment on les monte, ces guides Instagram. Donc si vous n'avez pas encore écouté cet épisode qui semble vous faire plaisir, eh ben, n'hésitez pas à aller l'écouter et puis on est à votre disposition pour échanger, y compris sur ces nouveaux formats.
Exactement. On se retrouve dès demain matin.
Dès demain matin et on vous souhaite à tous une très très belle journée. Salut tout le monde.
Allez, ciao.
Salut.